Il y a quelque temps de cela, un de mes enfants, je ne me souviens plus lequel, m'a cité cette petite illustration qui va nous introduire dans le message. C'est un chien qui réfléchit sur ses maîtres. Et puis, il dit, à propos de ses maîtres, il se dit en lui-même, « Ces gens prennent soin de moi et me nourrissent. Ils doivent être Dieu. » Puis dans le même temps, à côté, un chat a la même réflexion. En lui-même, il se dit, ces gens prennent soin de moi et me nourrissent. Je dois être Dieu. Cette petite illustration nous introduit dans notre sujet sous deux aspects. Et le premier aspect est, quel regard portons-nous sur Dieu ? Ces gens me nourrissent et prennent soin de moi, dit le chien. Ils doivent être Dieu. Un Dieu qui prend soin de moi, qui comble mes besoins. Voici une considération intéressante à étudier. Et comment la réfuter ? 1000 versets, et sans être plus que ça, dans la Bible, l'affirment que Dieu prend soin de nous, qui comble nos besoins. Pour autant, est-ce que Dieu n'est que cela pour nous ? Ce serait un peu réducteur. Un père, c'est déjà une considération plus large et qui est tout aussi biblique et particulièrement mise en avant dans les évangiles. Elle englobe les notions qu'on a vues jusqu'à présent, de prendre soin, de nourrir, de combler les besoins, mais également d'éducation, d'enseignement, d'autorité, de correction aussi. Mais parfois, l'image du père peut être faussée par un déséquilibre lié à notre vécu familial, et Caris en a témoigné ce matin, qui fait que tous les aspects paternels ne sont pas tous perçus de la même manière par tous. Pour certains même, le souvenir du père peut être une souffrance qui fait qu'ils ont du mal à s'approcher de Dieu sous cet angle-là. Ou s'ils le font, c'est peut-être avec une idée déformée de Dieu, d'un Dieu autoritaire, arbitraire, qui sait, injuste. Pour d'autres, au contraire, c'est l'absence du Père ou le manque d'autorité du Père qui va les faire douter de la protection que Dieu accorde à ses enfants. Alors, je ne vais pas me livrer ici à toute une énumération exhaustive, et j'en aurai pas la prétention, de tous les attributs, tous les aspects de Dieu, mais peut-être j'emploierai une comparaison qui a ses limites, qui est une multitude de facettes. Chacune nous permet d'entrevoir Dieu sous un angle différent. Excusez-moi. Sous un angle différent de sa voisine, de la facette voisine, mais pourtant si proche. Mais même cette image-là est limitée parce que tous les aspects sont présents dans la personne de notre Dieu. Tous ces aspects présents ne peuvent pas être différenciés, séparés, fragmentés, comme nous sommes tentés de le faire. Ils forment un tout. Si nous nous concentrons sur la notion de père, par exemple, il ne cesse pas pour autant d'être un ami. Il ne cesse pas pour autant d'être un consolateur. Tout ce que nous sommes appelés à découvrir jour après jour dans notre marche avec Dieu, cette unité parfaite qu'il nous donne d'entrevoir avec lui, c'est ce que nous sommes appelés à découvrir. Dieu le Père, Dieu l'ami, Dieu le juge. On a lu des versets ce matin là-dessus. Dieu souverain, Dieu de grâce, on vient de le chanter. Dieu le consolateur, Dieu le guide, Dieu qui veille, Dieu qui compatit, Dieu qui enseigne, Dieu qui pourvoit. Je m'arrête là, mais vous comprenez bien que ça ne s'arrêterait pas là. Nous voyons ces choses de manière un peu distincte, un peu fragmentée, presque dissociée. Mais elles et bien d'autres sont toutes présentes dans la personne de Dieu à tout instant. Il n'est pas tantôt père, tantôt ami, tantôt consolateur, tantôt juge. Il est tout le temps, tout et en tous. Et un des premiers textes que nous allons lire ce matin, très court, se trouve dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 3, verset 11. Il n'y a ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. Christ est tout et en tous. Il est bien difficile pour un grec de voir Dieu autrement qu'avec un œil grec. Il faut bien se rendre à l'évidence. Et un juif le voit avec un œil juif. Et l'esclave porte sur Dieu un regard d'esclave. Mais, malgré cela, le Christ est tout et en tous, ce qui fait qu'aucun d'eux, que ce soit le grec, le juif, l'esclave, le barbare, comme il a été dit, aucun d'eux ne manque de voir de Dieu ce dont il a besoin. Et ce sont nos limites humaines qui mettent en avant à un instant donné, ou dans des circonstances données, ou à cause d'une culture donnée, l'un ou l'autre de ces aspects, selon les besoins du moment. Quand j'ai besoin du Père, le Père est là. Quand j'ai besoin de l'ami, l'ami est là. Quand j'ai besoin du Consolateur, le Consolateur est là. Dieu est-il plus Père, plus ami, plus Consolateur pour autant, au détriment de ses autres qualités ? Non, mais il ne me refuse pas d'être Père, ami, Consolateur, quand c'est de cela que j'ai besoin. Plus encore, il n'est pas de situation dans laquelle je puisse me trouver où je puisse être à court de lui, d'un aspect de lui qui me soit utile et nécessaire. De quelque lieu, de quelque angle que je le regarde, quel que soit mon point de vue, il me présente toujours l'aspect de lui qui comble mon besoin. Au début de ma marche avec le Seigneur, je m'émerveillais de ce qu'il était capable, dans le même temps, de se réjouir avec ceux qui se réjouissent et de pleurer avec ceux qui pleurent. Et je me suis tue ce matin quand Anne-Marie a demandé des témoignages. Alors, comme je savais que je prenais la parole, je vais donner ce témoignage-là maintenant. Qui illustre ça, c'est que cette année, pour la première fois depuis que nos enfants font des études, tous les trois ont connu une réussite la même année. Et les autres années, eh bien, il y en avait un qui réussissait, un autre qui échouait, et la joie pour l'un était limitée par notre peine pour l'autre. Alors que cette année, que ce soit au niveau professionnel comme au niveau des études, ils les ont tous les trois réussis. Et donc je vois que là, la limite, c'est-à-dire que là, je peux vraiment complètement me réjouir, mais alors que je ne pouvais pas avoir cette complète réjouissance auparavant parce que mes limites humaines m'en empêchaient. Notre Dieu, lui, est capable d'avoir d'être totalement, se réjouir totalement avec celui qui se réjouit, et de pleurer totalement avec celui qui pleure. Et ça reste totalement inaccessible à l'humain ordinaire. Mais peut-être je le comprends mieux maintenant, on regarde cette pensée. Il est tout et en tous, selon ce que nous dit l'apôtre Paul dans les Colossiens. Il est tout et en tous. Il est père de tous. Il est ami de tous. Il est tout père de tous, pardon, tout ami de tous, tout consolateur de tous. Il est tout et en tous, et tout Dieu pour tous. Nous recevons tout de lui, mais peut-être que notre cœur cherche avant tout à combler ce qui lui manque, et ça c'est humain. C'est pourquoi on a tendance à compartimenter, à fragmenter Dieu pour mieux le connaître. Et ce n'est pas une erreur d'agir ainsi. Dieu lui-même se présente à nous sous de multiples facettes et se laisse découvrir par nous de cette manière-là. Et Jésus lui-même l'a abondamment utilisé dans ses paraboles, le cep, le bon berger, la porte, la lumière du monde, le pain de vie, et même la poule. Ce qui serait une erreur, ce serait de limiter notre regard de Dieu, notre regard sur Dieu, à quelques facettes favorites, d'en faire une sorte de verrue peut-être. Car alors, c'est là qu'on aurait une vue déformée, incomplète de sa personne. Nombre d'hérésies, d'ailleurs, sont nées de ce fait-là, de focaliser, d'accroître un aspect, de grossir un aspect et d'en atténuer d'autres, comme a pu le faire l'Inquisition, par exemple, qui a grossi le Dieu qui juge au détriment du Dieu qui fait grâce. Cherchons en permanence cet équilibre de connaître Dieu dans sa totalité, dans tous ses aspects, et de regarder, même si c'est à un moment donné, nous avons besoin d'un aspect plus particulier, c'est nous sommes invités à chercher Dieu dans sa totalité, dans son intégrité. Et donc, si Dieu accepte de se laisser regarder par nous, de là où nous nous trouvons, selon nos besoins du moment, nous sommes vraiment invités à chercher sa face pour mieux le connaître et découvrir des aspects de lui qui nous sont encore inconnus. Et c'est aussi ce que Paul exprime aux Corinthiens en disant à quel point il aspire mieux connaître Dieu et il sait même qu'il ne le connaîtra complètement qu'auprès de lui, que ça ne s'accomplira parfaitement qu'une fois près de lui. Ça se trouve dans 1 Corinthiens au chapitre 13 et le verset 12. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir. C'est pas si mal le miroir, mais il faut penser au miroir de l'époque. Qui, aujourd'hui, on pourrait s'y tromper dans un miroir entre la réalité et le miroir. Dans un miroir de l'époque, ce n'était pas le cas. Les miroirs étaient une plaque de métal poli qui reflétait la personne de manière déjà avec peu d'éclat et ensuite très déformée. Donc, l'image du miroir, il faut bien la penser avec l'idée du miroir de l'époque. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Et cette image du miroir va un peu dans le même sens que celle que j'ai utilisée pour les facettes tout à l'heure. Dans notre condition humaine, notre regard ne parvient pas à embrasser toute la richesse de la nature de Dieu. Il le voit d'une manière imparfaite, par aspect fragmenté, si vous voulez, comme dans un miroir de l'époque, ou de manière parcellaire, décomposée, comme dans l'image des facettes. Comme Paul, nous devons aspirer à enrichir notre vision de Dieu. Et à noter aussi que ce verset nous dit que, et d'autres d'ailleurs, que Dieu nous connaît parfaitement, lui. Si nous avons du mal à appréhender toute la richesse de la nature de Dieu, lui nous connaît parfaitement. C'est aussi pourquoi il est à même de répondre à nos besoins. J'ai parlé du Dieu Père, du Dieu Ami, du Dieu Juge, et pas du Dieu Amour. Pourtant, la Bible nous dit que Dieu est amour. Est-ce que ça ne serait pas à mettre au-dessus de tous les autres aspects ? Je vous suggère quelques questions pour nous aider dans cette réflexion, et pas seulement d'ailleurs sur l'amour de Dieu. On pourrait aussi le traiter sous l'angle de sa justice, de sa patience, de sa sainteté. Dieu est-il seulement juste quand il juge? N'est-il pas aussi un père juste, un ami juste, un consolateur juste? Dieu est-il amour seulement quand nous le considérons comme un ami ou comme un père? N'est-il pas un juge aimant? Un juge aimant. Aimant à tel point qu'il prend sur lui la condamnation du coupable. Quel juge? C'est un juge, c'est quelqu'un qui ne tient pas le coupable pour innocent. On ne gracie d'ailleurs que des coupables. Quel juge peut-il se prévaloir autant d'amour que notre Dieu? Toutes ces qualités, amour, justice, sainteté, patience et plein d'autres encore, imprègnent chacun des aspects de Dieu, des aspects que Dieu nous demande de découvrir, chacune des facettes sous lesquelles nous pouvons le regarder. Chacune des facettes les reflète, tous ces aspects, l'amour, la sainteté, la patience et d'autres. Quand je vois le Père, je vois l'amour du Père, je vois la justice du Père, je vois la sainteté du Père, je vois la patience du Père. En voyant l'ami, je vois l'amour de l'ami, je vois la justice de l'ami, la sainteté de l'ami, la patience de l'ami. Toutes choses qui me font dire que non seulement Dieu est d'une richesse infinie, mais aussi d'une perfection absolue. Ça, c'était pour le premier aspect. Et le deuxième aspect, c'est le point de vue du chat. Ces gens me nourrissent et prennent soin de moi, dit-il. Je dois être Dieu. Le chat considère que c'est sans doute à sa propre nature exceptionnelle qu'il doit les soins attentionnés de ses maîtres. Et ça nous introduit dans nos questions. Quel regard portons-nous sur nous-mêmes, sur nos semblables? Quelle valeur pouvons-nous nous accorder à nous-mêmes, à nos semblables? Quelle valeur avons-nous aux yeux de Dieu? En 1972, un avion s'est écrasé dans les Andes. Je pense que c'est une histoire qui est... Enfin, ce n'est pas une histoire, c'est la réalité. L'histoire est souvent la réalité. Bon, bref. Un avion s'est écrasé dans les Andes. Et les survivants sont restés plusieurs mois seuls à occuper ce qui reste de l'appareil dans la neige, en hiver, à 5000 mètres d'altitude. Et ils n'ont dû leur survie qu'au fait de manger le corps de leurs camarades tués dans l'accident. Durant tout ce temps, leur échelle des valeurs a été complètement bouleversée. Elle s'est transformée. Et non seulement d'ailleurs sur la question de la valeur du corps humain, par rapport à la valeur du corps humain, mais sur des choses beaucoup plus terre-à-terre que cela. Par exemple, ils ont essayé de faire du feu pour se réchauffer, et une fois qu'ils ont brûlé tout le bois qu'ils ont pu trouver dans l'avion, dans la carcasse, dans les morceaux qui restaient de l'avion, ils se sont mis à brûler des billets de banque. La valeur de ces billets ne se comptait plus en, je ne sais pas quelle était la monnaie, mais en espèces sonnantes et trébuchantes, si vous voulez, mais en calories. La valeur de ces billets, c'était la calorie, c'était plus ce qui était marqué dessus en espèces monétaires. Avec le constat aussi que sous cet angle-là, sous l'angle des calories, les billets ne valaient pas grand-chose. Ils n'en ont retiré que peu de chaleur. Quelle valeur a ce billet? Un bout de papier? Un peu d'encre? Et pourtant, si je me présente avec ce billet dans un magasin d'alimentation, si je suis raisonnable, je dois pouvoir survenir à mes besoins, quoi. 2 jours, peut-être, à peu près, si je suis raisonnable. Alors que si je le fais avec cette feuille de papier, qui elle aussi est un bout de papier et un peu d'encre, on ne me donnera pas un quignon de pain. Par contre, si sur ce même bout de papier, vous avez au dos une esquisse de Picasso, avec sa signature. Alors là, c'est le jackpot. Les choses n'ont de valeur que celles qu'on leur accorde, et même entre eux, les hommes se jaugent ainsi, selon leur richesse, selon leur pouvoir, selon leur influence. Mais s'ils perdent l'une ou l'autre de ces choses, ou s'ils les perdent toutes, à plus forte raison, alors ils se retrouvent tout en bas de l'échelle des valeurs. Évangile de Luc, chapitre 12, versets 6 et 7. Ne vend-on pas 5 passereaux pour 2 sous? Cependant, aucun d'eux n'est oublié devant Dieu, et même vos cheveux sont tous comptés. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. Et un peu plus loin, au verset 23 et 24, La vie est plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement. Considérez les corbeaux, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'ont ni cellier ni grenier, et Dieu les nourrit. Combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux ? Dans ce deuxième texte que nous voulons lire, Jésus donne l'échelle des valeurs de Dieu. La vie, c'est plus que la nourriture. Le corps, c'est plus que le vêtement. Quand on voit les sommes qui sont dépensées par certains pour des vêtements, c'est inimaginable. Le corps vaut plus que cela. Et nous, aux yeux de Dieu, il nous est dit ici, nous volons bien plus qu'une multitude d'oiseaux, dont il ne manque d'ailleurs pas de prendre soin, ce qu'il nous dit auparavant. Intrinsèquement, si nous nous regardons, que sommes-nous ? Un empilage de molécules, un peu de chair sur quelques os. La nature regorge de toute espèce de créatures constituées de chair et d'os comme nous. Mais notre valeur aux yeux de Dieu ne tient pas compte de ce que nous sommes, mais de celle que lui nous accorde. Jésus le dit ici, nous valons beaucoup aux yeux de notre Dieu. Le chat se leurre quand il croit que ses maîtres prennent soin de lui parce qu'il serait, soi-disant, un être supérieur. La vérité, c'est que ses maîtres prennent soin de lui uniquement parce qu'ils l'aiment, parce qu'ils se sentent responsables de lui, parce qu'on ne prend pas un animal si ce n'est pas pour s'en occuper. Non, au contraire, quand ils ont adopté ce chat, ils ont préparé pour lui une litière, un lieu pour dormir, ils ont mis de côté un budget pour le nourrir, pour le vacciner. Homo sapiens sapiens, l'homme doublement sage. C'est ainsi que l'homme moderne fait sa propre évaluation dans la lignée humaine. Il dit qu'aujourd'hui, il est l'homme doublement sage. Il est toujours dangereux de s'évaluer soi-même. Mieux vaut laisser cela à Dieu qui dispose des critères de sagesse absolue. Mais c'est une tentation. Et il y a un passage dans la Bible qui est particulièrement savoureux sur ce plan-là. Il se trouve dans le livre des Actes au chapitre 28. Et il met en scène l'apôtre Paul lorsqu'il arrive après son naufrage sur l'île de Malte. Donc acte 28. Une fois que nous fûmes hors de danger, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait très froid. Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres, « Assurément, cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il a été sauvé de la mer. » Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement, mais après avoir attendu longtemps, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un dieu. Sur ce seul fait qu'une vipère s'attache à la main de Paul. Et on peut supposer qu'elle le mord, mais ce n'est pas dit vraiment expressément. Ces gens commencent à porter sur lui un regard soupçonneux, ça c'est le moins qu'on puisse dire, pour ne pas dire un jugement arbitraire. Être mordu par une vipère après avoir échappé d'un naufrage, c'est sûrement, vous pouvez être qu'un meurtrier. Mais presque aussitôt, alors on nous dit, après avoir attendu un long moment, ça peut être quelques heures, mais en tout cas pas des jours, ils changent d'avis, et voyant qu'il ne lui arrive rien, que là il tombe par raide mort devant eux, ils disent que c'est un dieu. En l'espace de quelques instants, Paul est passé du statut de simple naufragé à meurtrier et à la divinité, comme le regard sur eux-mêmes, comme le regard des hommes sur eux-mêmes et sur leurs semblables est versatile. Sujet à caution, l'homme est versatile dans ses jugements, instable, sans nuance. Il est passé du meurtrier à la divinité. Il ne craint pas de porter au nu celui qu'il a cloué la veille au pilori et inversement. Et ça, sur un simple retournement de circonstances, comme la vie en procure couramment. Jésus en sait quelque chose. Lui qui a trouvé bien souvent face à lui des personnes qui l'ont un temps accompagné, voire plébiscité. Le regard de Dieu sur nous, lui, ne change pas. Psaume 103, verset 14. Car il sait de quoi nous sommes formés, et pour cause, c'est lui qui nous a formés. Il se souvient que nous sommes poussière. Un empilage de molécules, un peu de chair sur quelques os, mais nous sommes la création de Dieu. Elle porte sa signature. C'est elle, c'est la signature de Dieu sur nous qui nous donne sa valeur. Franchement, quelle valeur aurions-nous si Dieu cessait de nous aimer? Quelle valeur aurions-nous si Dieu cessait de nous aimer? Est-ce que quelqu'un veut se lever et lire le psaume 103? Je n'ai pas prévu de prévenir. Ce psaume 103 reprend un certain nombre des choses que nous avons dites ici et même certaines de celles que nous avons chantées ce matin et évoquées dans la première partie du culte. Amen.